Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la Voix de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nalit Talani. L'échographie fait partie des examens prénataux de routine proposés aux femmes enceintes dans la plupart des pays dotés de services de santé assez développés. Elle est incluse dans les soins de santé prénataux pour améliorer la santé de la mère et du bébé. Quels avantages cet examen présente-t-il aussi bien pour la mère que pour l'enfant? Quand faut-il le faire? À quel danger s'expose une femme qui s'abstient de faire une échographie? Quel risque pour le bébé?
Celles qui s'abstiennent de faire des échographies prennent des risques divers. Parce que, par exemple, l'échographie qui se fait entre 6 et 10 semaines confirme l'allocation de la grossesse, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans l'utérus ou est-ce qu'elle est ailleurs. Et cela se fait entre 6 et 10 semaines parce que à ce moment où le fait petit, il peut causer beaucoup de dégâts si par exemple il se trouve dans les trompes.
Telles sont les questions auxquelles répondra Madame Sabrina Ngwe, échographe à l'hôpital Innova en Virginie, ici aux États-Unis. Au cours de ce magazine Votre Santé, Votre Avenir, notre invité apportera aussi des réponses aux questions que vous aviez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Après cette interview, vous suivrez Carnet de Santé présenté par Linon Moudou dans la deuxième partie de l'émission. Comme annoncé, vous allez suivre maintenant l'entretien que nous a accordé Madame Sabrina Ngwe sur l'échographie.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Bonjour.
Merci d'accepter d'être notre invité pour Votre Santé, Votre Avenir, pour parler de l'échographie. Nous allons commencer cette émission par une question qui vient de Félicien Koudoufouela. Il veut savoir quels sont les avantages d'une échographie.
Alors, l'échographie est une méthode d'évaluation non évasive du fœtus et de la maman. Elle aide à avoir l'état de santé du fœtus et de la maman sans toutefois être invasive, donc elle présente très peu de risques.
Et Alviki Alphonse Mwaki veut savoir à combien de mois on peut commencer une échographie ou faire la première échographie.
La première échographie peut se faire aussi tôt que 6 semaines de grossesse. C'est à ce moment-là qu'on peut voir le fœtus qui se forme dans l'utérus.
Bon, c'est une question qui est venue d'un auditeur qui veut savoir à combien de mois peut-on déclarer l'œuf clair. Certainement, on peut voir l'œuf clair.
Généralement, c'est après 12 semaines de grossesse, dont 3 mois, qu'on peut être à peu près sûr que la grossesse va tenir son cours. Donc, disons, c'est après 12 semaines, 3 mois.
Toujours Jefté Kabeya, il veut savoir combien d'examens d'échographie sont recommandés à une femme enceinte, donc pendant le moment où elle est enceinte et l'accouchement.
Alors, cela dépend des cas, mais je vais donner de façon générale. La première échographie est faite entre 6 et 10 semaines, et cela, c'est pour établir à la viabilité du fœtus et aussi pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre qui se passe dans le pelvis. Et après, la deuxième est conseillée entre 12 et 14 semaines pour établir que les fonctions primaires sont en train de prendre cours comme cela se doit. Et l'examen le plus connu, le plus attendu des mamans, c'est entre 18 et 24 semaines. C'est là où l'anatomie détaillée du bébé est faite pour savoir s'il y a des déchets qui peuvent être déjà perçus à cet âge du fœtus.
Alors, on rencontre souvent certaines femmes qui minimisent l'échographie. À quel danger ce genre de femme s'expose-t-elle, celle qui s'abstient de faire une échographie, et quels sont les risques pour le bébé?
Alors, celles qui s'abstiennent de faire des échographies prennent des risques divers parce que, par exemple, l'échographie qui se fait entre 6 et 10 semaines confirme l'allocation de la grossesse, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans l'utérus ou est-ce qu'elle est ailleurs. Cela se fait entre 6 et 10 semaines parce que à ce moment où l'œuf est petit, il peut causer beaucoup de dégâts si par exemple il se trouve dans les trompes. Entre 12 et 14 semaines, il est établi que les fonctions vitales du fœtus sont en cours. Donc, une personne qui décide, qui a l'opportunité, mais qui décide de ne pas avoir une échographie, peut manquer l'information de savoir que tout ne se passe pas comme il se faut dans l'utérus. Et entre 18 et 24 semaines, il faut voir s'il y a des décès, peut-être la maman peut prendre un traitement qui peut empêcher que certaines choses qui ne sont pas en train de bien se former s'arrangent. Donc, manquer de se faire suivre par échographie comporte des risques.
Merci. Il y a eu des cas où l'échographie a montré un sexe masculin, mais le bébé est né de sexe féminin. C'est ce qui a poussé Médard du Rocher Beaupé à se demander pourquoi l'échographie ne donne pas une réponse exacte en ce qui concerne le sexe de l'enfant.
Bon, en général, il répond à la question du genre de bébé de façon certaine. Donc, l'incertitude ici provient de l'inaptitude du technicien à visualiser les parties génitales du fœtus. Si celui-ci se présente d'une façon peu favorable à l'examen. Donc, généralement, si le technicien n'arrive pas à déterminer le sexe du bébé, une autre visite est prise pour pouvoir donner un autre coup d'essai.
Et Abdoulaye Sankara, lui, il veut savoir si l'échographie définit tout de suite l'auteur de la grossesse à l'issue d'un doute.
Malheureusement, cette question-là, l'échographie ne peut pas définir la paternité du fœtus parce que ce n'est pas un examen sanguin.
Alors, la question de Nervi Nerva rejoint un peu celle que Médard du Rocher Beaupé a posée tout à l'heure concernant pourquoi des fois les résultats de l'échographie ne s'avèrent pas, sont différents de la réalité à la naissance de l'enfant.
Bien, nous le savons, toute science a des limites. Donc, du fait que l'interprétation de l'échographie provient de l'observation déduite de la réaction des cellules corporelles par rapport au sang. Cela veut dire que plusieurs facteurs affectent le comportement du sang qui traverse le moment du bébé. Donc, de ce fait, certains diagnostics ne peuvent être confirmés qu'à la naissance du bébé après l'observation directe lorsque c'est possible.
Tchatch Konaté s'attendait à des jumelles après 3 échos. Il dit que c'est au dernier que son rêve tombe à l'eau. L'échographie révèle un enfant, une fille. Seulement, le sexe était vrai, mais il voudrait savoir pourquoi ces erreurs, lui qui s'attendait à des jumelles, et voilà qu'il se retrouve avec une seule fille.
Il y a plusieurs explications à ce phénomène. Si nous avions l'âge exact à laquelle les échographies ont été faites, la réponse aurait été plus axée sur son cas précis. Mais en général, les jumeaux peuvent être conçus au départ, mais l'un ne progresse pas. Cela s'appelle généralement le jumeau qui disparaît. Donc, quand cela arrive pendant les premières semaines, le premier trimestre, le jumeau qui n'a pas survécu est réabsorbé de sorte qu'il n'y a plus de traces. Donc, après confirmation d'une grossesse multiple en cours, il y a des chances que cette grossesse devienne une grossesse unique. Et si on n'est pas suivi par une échographie après la première ou la deuxième qui se fait généralement au premier trimestre.
Et Alphonse Mouaki demande si le bébé prématuré est découvert à l'échographie. Lui, c'est depuis la RDC qui nous écrit.
Le bébé prématuré est celui qui est né avant l'âge terme qui est 37 semaines de grossesse, soit 8 mois et demi. Donc, de façon technique, l'échographie ne détermine pas la prématurité du bébé, mais plutôt l'âge en semaine de naissance.
Damas Moussaou Ndombe a laissé 3 séries de questions sur notre page Facebook de VO Afrique. Dans la première question, il dit « Madame, l'échographie en tant qu'examen est obligatoire chez nous ici, dans les grandes villes et aussi dans les grands centres, dotés des experts. Mais l'on constate que lors de la naissance, les nouveaux-nés sont parfois infirmes, soit il y a des problèmes graves qui mettent en danger la vie des enfants ou de leur mère. À quoi cela est-il dû ?»
Ça, c'est une très bonne question. L'échographie est un outil de diagnostic. Donc, un échographe est un technicien. Et la technologie et la technique déterminent le degré de compétence et le pourcentage de résultats positifs. Donc, cela veut dire entre les capacités de la personne qui fait l'examen et la performance de la machine, ces 2 facteurs déterminent le résultat. Il y a aussi l'équipe médicale, parce que l'échographe, dans sa profession, n'est pas censé y travailler tout seul. Il doit avoir le soutien du radiologue ou de l'obstétricien spécialisé en grossesse difficile, qui, l'un des deux, doit être la deuxième paire d'yeux. Donc, pour affirmer ou questionner ou mettre un peu plus d'informations sur ce que l'échographe a déterminé. Cela étant dit, il arrive que des décès soient manqués, surtout si la grossesse ne bénéficie que d'un seul examen. Ou encore, certains décès ne se signalent que plus tard, pendant le 3e trimestre. Il y a des décès, par exemple, cardio, qui ne peuvent vraiment se déterminer que lorsque le bébé a atteint 30 semaines, 32 semaines. Mais généralement, la plupart des fœtus sont examinés entre 18 et 24 semaines.
La 2e question de Moussaou Ndombe, c'est celle, je pense que c'est la question que, l'une des questions que la plupart de nos auditeurs ont posées. Alors, voilà, il s'inquiète du fait que le mensonge de l'échographie laisse en désespoir les femmes. Dans le cas où, quand la femme se rend à son échographie, on lui dit que c'est un garçon, alors qu'à la naissance, elle met au monde peut-être des jumelles. Alors, il veut savoir si, à ce moment-là, il faut blâmer les échographes ou ce sont les appareils qu'on utilise qui sont douteux.
Bon, un peu des deux. Avec l'avancée de la technologie, ce genre de cas sont de moins en moins courants. Et il faut aussi mentionner que les échographes ont des limites et c'est à chacun d'être honnête et d'admettre lorsque, à la suite des forces soutenues, l'examen ne peut pas être conclu de façon satisfaisante. Donc, si un échographe a un code d'éthique de travail honnête, il pourra reconnaître « j'ai pas pu déterminer le sexe du bébé » au lieu de deviner ici est l'ennemi de l'échographe. On doit se baser sur les faits et sur ce qu'on voit. Donc, il est important que l'échographe soit honnête et aussi ça dépend des appareils que nous utilisons.
Selon Moussaou Ndombe, nos grands-parents ne savaient pas tout ceci, ne connaissaient pas l'échographie et les risques de décès, certainement à la naissance, étaient moins importants. Alors que maintenant, il y a beaucoup de cas de décès pendant l'accouchement, tant pour le bébé que pour la maman. À quoi cela est-il dû?
Bon, je dirais que ce résumé ne reflète pas vraiment l'histoire réelle. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts pour le montrer clairement. Mais l'amélioration des soins prénataux, donc l'échographie, en fait partie, contribue à ce qu'il y ait moins de mortalité périnatale, tant pour la maman que le bébé. Les histoires que maintenant nous entendons beaucoup parler de ces cas, et peut-être dans le passé, nous n'en entendions pas parler beaucoup, mais l'une des luttes qui est mise en avant dans le domaine de l'obstétrique, c'est de diminuer la mortalité autour de la grossesse, que ce soit pour la maman, pour le bébé, et aussi de lutter pour que les bébés soient, avant la naissance, soient pris en compte encore plus pour éviter justement ce genre de catastrophe qui arrivait très souvent dans le passé.
D'après Alphonse Mbouaki, aujourd'hui, on assiste fréquemment à des hémorragies pendant les accouchements, alors que dans les villages, dans le passé, les mamans accouchaient sans hémorragie, elles ne connaissaient pas ces problèmes d'hémorragie, ce qui diminuait les décès de la maman ou du bébé à la naissance? Comment expliquer cela?
Bon, encore, c'est à peu près la question précédente. La périnatalité a été la raison de chasse aux sorcières pour nos mamans. Et aujourd'hui encore, celles qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas accès à la médecine moderne, en paient le prix. En prenant l'exemple cité, l'hémorragie postpartum, c'est-à-dire l'hémorragie après l'accouchement, l'une des raisons peut être simplement que le placenta recouvre le col. Et le col, c'est la partie de l'utérus qui s'ouvre pour que le bébé puisse sortir de l'utérus. Alors, si le placenta recouvre le col, que ce soit un bout ou toute une partie du placenta, sachant que le placenta, ce sont des vaisseaux sanguins, cela cause une hémorragie. C'est un diagnostic qui est très simple et qui se fait très facilement. Lorsque la maman a reçu une échographie pendant le deuxième semestre, entre 18 et 24 semaines, et si, lorsque cela a été découvert en ce moment-là, la maman a un suivi qui permet qu'à 32 semaines, cela soit encore évalué pour voir si ça a été résolu ou pas. Si ce n'est pas résolu à l'approche de la 36e semaine, la maman aura encore une échographie. Et s'il est montré que le placenta n'a pas bougé, la maman devra être accouchée par voie césarienne, et cela avant qu'elle ne finisse la 37e semaine, pour diminuer justement le risque d'hémorragie pendant l'accouchement.
Alors, dans la dernière série de nos questions, nos auditeurs veulent savoir ce qu'on peut voir à l'échographie à 3 semaines de grossesse.
3 semaines de grossesse, généralement, il n'y a rien à l'échographie. Le plus tôt qu'on peut voir quelque chose, le sac embryonnaire dans l'utérus, c'est à partir de 5 semaines de grossesse. Et c'est là où on voit le sac embryonnaire et le sac de Vitelli.
Et à partir de quand peut-on voir l'embryon dans la cavité utérine?
Dans la cavité utérine, entre 6 et 7 semaines, c'est généralement au début de la 6e semaine, l'embryon est visible dans la cavité utérine.
Et à partir de quel stade peut-on entendre le cœur de l'embryon?
Le cœur de l'embryon s'entend entre 6 et 7 semaines. Cela commence doucement entre 70 et 80. Et par la fin de la 7e semaine, peut arriver jusqu'à 180.
Et à quel moment peut-on reconnaître le sexe de l'enfant à naître?
Généralement, cela dépend de la maman, du corps, la façon dont le sang traverse la maman. Cela peut être vu à 13 semaines, mais généralement, pour être sûr, c'est conseillé de déterminer le sexe de l'enfant entre 18 et 24 semaines pendant l'anatomie complète du bébé.
Merci beaucoup. Pour terminer notre émission, Madame Sabrina Ngwe, quel conseil pouvez-vous donner aux femmes qui négligent l'échographie et même... Bon, d'abord, est-ce que l'échographie, c'est juste une affaire de la mère ou le père peut aussi faire quelque chose?
Bien sûr, l'échographie, c'est une expérience familiale. C'est vrai, c'est un examen médical. On ne doit pas prendre cela vraiment à la légère parce que certains pensent que c'est juste comme une balade. C'est un examen médical, mais c'est un examen médical qui peut se faire en famille. Ça aide aussi le papa à voir ce qui se passe, à être inclus dans la progression de la grossesse. Donc, les papas devraient se sentir à l'aise et la maman devrait se sentir à l'aise d'être assistée par le papa pendant qu'elle se fait faire une échographie.
Merci. Et donc, quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui continuent de négliger les échographies ou bien qui ne s'intéressent même pas à faire l'échographie pendant qu'elles sont enceintes?
Je dirais que peut-être c'est par ignorance des bienfaits que l'échographie pourrait apporter. Dans ma profession, cela fait un peu plus de 10 ans que je me suis concentrée à l'échographie prénatale et je vous assure, ce qu'on voit peut être époustouflant. Donc, cela apporte un élément de diagnostic soit rassurant ou de prévoyance pour les parents. Donc, prenez cela au sérieux. C'est tout comme un check-up qu'on vous demanderait de faire sur vous-même. Donc, un homme averti en vaut mieux.
Merci beaucoup, madame. Nous vous remercions d'avoir été l'invitée de cette émission « Votre santé, votre avenir » sur VOA Afrique.
Le plaisir est le mien. Merci.
Vous suivez « Votre santé, votre avenir » sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre l'entretien que nous a accordé madame Sabrina Ngwe sur l'échographie. À présent, c'est le moment de suivre « Carnet de santé » avec Lina Moudou.
Cette semaine, dans « Carnet de santé », un regard sur l'erreur de diagnostic, problème très courant qui peut avoir de graves conséquences. Et dans quelle mesure le corps médical doit-il être tenu responsable des erreurs médicales? Nous avons vos réactions. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le diagnostic en médecine est l'une des opérations les plus importantes effectuées par les prestataires de soins de santé. Il permet de détecter la présence d'une maladie ou d'un dysfonctionnement chez le patient. Cependant, un rapport de l'Institute of Medicine des États-Unis intitulé Améliorer le diagnostic dans les soins de santé a conclu que la plupart des gens connaîtront probablement une erreur de diagnostic au cours de leur vie. Erreur médicale la plus courante, une erreur de diagnostic peut avoir des conséquences graves pour les patients et même entraîner la mort. Les erreurs de diagnostic comprennent le diagnostic d'une maladie inexistante, un diagnostic erroné ou tardif, ou l'incapacité à reconnaître les complications qui modifient ou aggravent les conditions existantes. Partons au Kenya, où le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation des cas d'erreurs de diagnostic. Reportage de Uba Abdi à Nairobi.
Depuis 12 ans, Caroline Nyambura a perdu la vue à cause d'un diagnostic erroné. Elle a été soignée pour une maladie dont elle ne souffrait pas.
Ils m'ont soignée pour le paludisme. Ils m'ont fait une piqûre et donné d'autres médicaments contre le paludisme. Je me souviens que c'était dimanche. J'ai utilisé ces médicaments le dimanche et le lundi, j'ai perdu connaissance selon mes parents.
Comme sa santé ne cessait de se détériorer, Nyambura a dû demander un deuxième avis à différents médecins et après plusieurs tests, on a diagnostiqué chez elle une méningite. Cela signifie qu'elle avait suivi le mauvais traitement pendant un certain temps.
Je suis allée dans un troisième hôpital et dès que je suis arrivée là-bas, les médecins m'ont regardée et m'ont dit qu'il s'agit d'une méningite. Ils étaient très en colère contre les médecins précédents. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils ont fait des tests nécessaires et ont confirmé qu'il s'agissait d'une méningite et que c'était à un stade très critique.
Même après le traitement et les médecins essayant d'aider autant qu'ils le pouvaient, Nyambura a perdu la vue. Le docteur Benjamin Jia de l'hôpital Saint-Francis de Kasarani à Nairobi dit que lorsqu'elle est traitée tardivement, la méningite peut provoquer des effets irréversibles.
Par exemple, pour le cas de Nyambura, la méningite affecte la membrane qui protège le cerveau et la moelle épinière. Si la méningite n'est pas traitée au bon moment, elle peut se propager et affecter de nombreuses autres parties du corps.
En 2019, le secrétaire général du syndicat kényan des techniciens de laboratoire, Enoch Wanyoni, a souligné que le nombre d'erreurs de diagnostic est en augmentation car la plupart du travail de diagnostic a été laissé aux pharmaciens et aux enseignants de biologie, alors que cela devrait relever des techniciens de laboratoire. Le secrétaire général du syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya, Deji Atela, appelle à un examen sérieux de la situation.
Nous manquons de médecins dans les hôpitaux et dans les établissements ruraux, dans les établissements de niveau 3 ou de niveau 2. Donc nous n'avons pas assez de médecins et tout le monde qui porte une blouse blanche n'est pas médecin. C'est pourquoi nous avons tant de cas de négligence ou d'erreurs de diagnostic.
Le docteur Ndia conseille aux agents de santé de ne pas hésiter à dire aux patients qu'ils doivent une seconde opinion à un autre hôpital.
Aussi cité. coup.
N'hésitez pas à dire au patient que vous avez peut-être cette maladie ou une autre maladie, mais nous n'en sommes pas sûrs. Conseillez-leur d'aller dans un autre hôpital situé au-dessus de nous afin qu'ils puissent le diagnostiquer correctement si nous ne sommes pas sûrs. Vous ne voulez pas donner aux patients des médicaments pour la mauvaise maladie.
Même si elle est en colère, Nyambura dit qu'elle a accepté sa condition et espère que d'autres ne passeront pas par son expérience.
Le docteur Ousmane Galadima est spécialiste du rein au département de médecine interne de l'hôpital universitaire d'Abuja au Nigeria. Il revient sur le défi que constitue l'erreur de diagnostic.
Presque toutes les maladies peuvent être mal diagnostiquées. Statistiquement, les femmes et les jeunes arrivent en tête de liste de mauvais diagnostics. Le médecin pourrait bien sûr être limité car le type de test que vous souhaitez faire n'est pas disponible, surtout à l'intérieur du pays. Et donc, cela provoque beaucoup de frustration. Parfois, nous avons envoyé des échantillons hors du pays et cela peut prendre jusqu'à 2 semaines avant de recevoir les résultats. Si les laboratoires étaient disponibles dans le pays, vous pourriez avoir des résultats peut-être en un jour ou en quelques heures. Maintenant, commençons par un patient. Il peut avoir des maux de tête ou de fièvre et, d'après sa propre expérience, il pense avoir la typhoïde. Ensuite, il va dans un laboratoire et dit « Faites-moi un test pour la typhoïde ». Il n'y a pas de consultation appropriée avec le médecin. Le technicien du laboratoire fait le test et leur dit que le résultat est positif, puis le patient se rend à la pharmacie où obtient les médicaments contre la typhoïde. Mais il pourrait souffrir du paludisme. Les conditions faisant l'objet de mauvais diagnostics sont les maladies rares ou hors des limites de l'expérience du médecin. Si l'on est mal diagnostiqué, la meilleure option est de demander un deuxième avis. Et les patients doivent savoir qu'en vertu de la Charte des droits de l'homme des Nations Unies, ils peuvent interroger le médecin. Ils doivent chercher à être convaincus concernant leur problème, la cause de la maladie et son issue. Vous ne devez pas simplement accepter tout ce que le médecin donne comme information. S'il n'est pas satisfait, il peut demander un deuxième avis. Mais vous le savez, le coût est un facteur majeur d'erreur de diagnostic. Comment résolvons-nous cela? Eh bien, là, il y a une couverture maladie universelle pour tout le monde. Vous pouvez faire autant d'examens que possible sans souci d'économie. Et nous devons faire quelque chose pour retenir les médecins dans le pays. Environ 24 000 médecins au Nigeria s'occupent d'une population de 200 millions d'habitants. Ainsi, si vous supprimez les dépenses personnelles et le fardeau financier du patient qui recherche des soins de santé, davantage de personnes viennent à l'hôpital. Les hôpitaux seront mieux financés, plus d'équipements seront disponibles, ils pourront embaucher plus de spécialistes et même conserver des médecins et autres agents de santé.
Nous avons demandé votre avis sur les erreurs médicales et ce qui peut être fait face à ce problème. Voici quelques réactions depuis le Nigeria.
Premièrement, je voudrais que les médecins sachent que la question du professionnalisme, c'est-à-dire le professionnalisme du médecin, est une question d'expertise. Ils doivent être des experts dans leur travail. S'ils savent qu'ils ne seront pas des experts, ils ne devraient pas être appelés médecins. Donc, la clé est qu'ils devraient être des experts. S'ils sont des experts, je pense que les erreurs seront évitées. Même si elles ne peuvent être complètement évitées, elles seront au moins minimisées. Mon point est que si les médecins commettent des erreurs, ils devraient être pénalisés. Ils devraient être tenus responsables par la loi afin que cela puisse servir d'exemple aux autres.
Tout d'abord, lorsqu'un médecin commet une erreur, il doit vérifier la déontologie de la profession afin de savoir comment gérer une telle situation. Et lorsqu'une telle chose se produit, je pense que le médecin en question devrait voir son permis suspendu afin qu'il ne travaille pas pendant l'enquête. Et selon le résultat, s'il s'agit de quelque chose d'aussi grave, le médecin peut probablement aussi être mis en prison pendant un certain temps. Mais s'il s'agit de quelque chose qui n'est pas si grave, il peut peut-être suspendre sa licence afin qu'il n'exerce pas pendant une certaine période jusqu'à ce qu'il puisse s'appeler.
Voici la fin de ce magazine hebdomadaire, Votre santé, votre avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire était structurée autour de l'échographie. Nous avons eu un entretien avec Madame Sabrina Ngwe, échographe à l'hôpital Innova en Virginie, ici aux États-Unis. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé, présenté par les Normaux. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nani Tetalani. Continuez d'écouter Vidéo Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.